Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Madame, Monsieur, et merci de nous écouter sur Canal Académie, la radio web qui donne la parole aux académiciens. Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est venu au studio nous parler des écoles de sagesse et des méthodes de transmission au Tibet. Bonjour Jean-Noël Robert.
Bonjour Madame.
Le Tibet revient sans cesse sous les feux de l'actualité, et je dirais malheureusement pour lui, puisque depuis les années 60 et la politique chinoise que tout le monde connaît, son chef spirituel et temporel est en exil et une partie de la population a choisi d'émigrer. C'est que le Tibet, au long d'une bonne partie de son histoire, a présenté cette particularité d'être gouverné par des autorités religieuses. Au 7e siècle de notre ère, l'adoption officielle du bouddhisme indien fut un événement décisif pour la civilisation tibétaine. Mais si les Tibétains trouvent leur identité dans le bouddhisme, il s'agit d'un bouddhisme original, le lamaïsme, et c'est le tibétologue Rolf Stein qui parlait du lamaïsme, de cette religion des dieux, école de sagesse. Il évoquait aussi les monastères du lamaïsme qui étaient de véritables villes universitaires. Jean-Noël Robert, quels sont les traits le plus significatifs du bouddhisme tibétain et quel est son rôle intellectuel et culturel? Et puis évidemment, quelles sont ses méthodes de transmission?
Bien, ce sont de vastes questions et des questions adressées peut-être à quelqu'un qui n'est pas le bon interlocuteur puisque je ne suis pas tibétologue de profession, je suis un amoureux
du
Tibet.
Vous n'êtes pas la réincarnation de Rolf Stein?
Malheureusement d'ailleurs, nous sommes connus, enfin il était donc vivant lorsque je l'ai connu pour la première fois, je le regrette bien d'ailleurs, mais j'ai très longtemps hésité entre étudier le bouddhisme sino-japonais et le bouddhisme tibétain. J'ai jamais pu me résoudre à abandonner complètement l'étude de la langue tibétaine que j'ai commencé il y a bien longtemps et que je suis loin d'avoir terminé. Et comme le disait mon maître Bernard Franck, soyez un tibétologue du dimanche. C'est ce que j'essaye de faire et encore pas tous les dimanches.
Donc, c'est en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dimanche.
Oui, pensons que nous sommes dimanche. Et c'est donc en tant que tibétologue du dimanche que je vais essayer de répondre à ces vastes questions. Mais c'est vrai que d'abord, il y a une question de terme. Jusqu'à assez récemment, on utilisait tout à fait couramment le terme de lamaïsme, le mot de lamaïsme pour désigner le bouddhisme tibétain. C'est un terme qui existe depuis le 19e siècle. Je crois que c'est l'orientaliste Waddell qui avait fait le lamaïsme, n'est-ce pas? Tibetan Buddhism or lamaïsme, c'est qui a lancé le mot. Et puis, dans les années, surtout 80-90, avec la grande vague de critiques de l'orientalisme qui a été suscitée dans la mouvance d'Edward Said, on a cloué au pilori l'usage même du mot de lamaïsme, du terme de lamaïsme, en disant que c'était une invention des Occidentaux pour, en quelque sorte, déclasser le bouddhisme tibétain comme une monstruosité intellectuelle face au bouddhisme traditionnel indien, donc qui aurait été un bouddhisme pur, et que les Occidentaux, pour montrer que le bouddhisme tibétain était une presque dégénéré, lui ont collé le terme de lamaïsme.
Oui, parce c'est tout à fait injuste. Que c'était une espèce de secte de lama.
C'était pour montrer que c'était pour faire une sorte de séparation entre ce qui aurait été un bouddhisme, disons, traditionnel, pur, dont l'archétype aurait été le bouddhisme des Theravada, n'est-ce pas, ce qu'on appelait parfois le petit véhicule qui existe encore en Thaïlande, et le bouddhisme tibétain, ce sont des sorciers, des gens pas très catholiques.
Des chamans.
Oui, aussi. Et ils mangeaient de la viande, parfois ils se mariaient, dans le meilleur des cas. On a estimé que le lamaïsme était un terme péjoratif inventé par les Occidentaux. Heureusement, quelques personnes ont fait remarquer que les Chinois aussi, et pas n'importe quel Chinois, puisque les grands empereurs Qing, dans une stèle d'ailleurs qui est encore conservée, que l'on peut lire devant ce que les touristes appellent le temple du Grand Lama au milieu de Pékin, qui est le Yonghegong, n'est-ce pas, qui est un merveilleux temple tibétain au milieu de Lhasa, qui servait aussi de lieu de résidence lorsque soit le Panchen Lama, soit le Dalai Lama se rendaient à Pékin. Il y a en chinois écrit en toutes lettres « Lama Shuo », n'est-ce pas, ou la doctrine des lamas pour désigner le bouddhisme tibétain. Donc ce n'est pas une création occidentale. Et M. Stein était tout à fait fondé à parler du lamaïsme. Mais voilà, je voulais simplement prévenir les gens lorsqu'ils utilisent ce mot-là. Alors en effet, comme vous l'avez dit, c'est un bouddhisme à la fois très original et qui se veut quand même dans la droite ligne de transmission, justement, des grandes écoles indiennes. Lorsqu'on contraste la civilisation japonaise avec la civilisation tibétaine, c'est que, justement, on peut dire que la civilisation tibétaine, dans une grande mesure, là aussi, je grossis le trait, mais c'est vraiment constitué par le bouddhisme. Vous avez parlé du 7e siècle, on dit, il y a ce récit semi-légendaire de l'ambassade envoyée par l'un des grands rois tibétains du 7e siècle en Inde.
Pour aller
vraiment chercher à la fois l'enseignement du Bouddha et la culture. C'est-à-dire que là, c'était vraiment indissocié, n'est-ce pas ?
Il avait pourtant dû avoir des échanges. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, que peut-être que la politique tibétaine a été d'aller voir de plus près.
On connaissait l'existence de l'Inde comme de la Chine, d'ailleurs. D'autant plus que la population tibétaine est probablement arrivée du nord de l'Himalaya, c'est-à-dire des régions limitrophes avec la Chine, plutôt que du côté méridional. Mais donc, ce personnage qui est connu sous le nom de Tommi Sambhota, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, parce que Tommi voudrait dire l'envoyé, et Sambhota, c'est un mot sanskrit qui voudrait dire le bon tibétain, n'est-ce pas ? Donc c'est peut-être un surnom qu'il a tenu en Inde, mais en tout cas, il est revenu de son périple en Inde avec un alphabet tibétain adapté des alphabets indiens du Nord, et puis une grammaire tibétaine très simple qui est composée de quelques chapitres mais qui donnait les règles de l'orthographe tibétaine et de la façon de couper les mots, de comprendre les composés, etc. Et c'était, on s'est mis tout de suite, presque tout de suite, au travail de traduction des textes bouddhiques en tibétain. Ça a été une véritable entreprise d'État. Comme on l'a souvent répété, très très tôt, dès le 8e siècle, on a, sous les auspices de la cour royale, on a élaboré une sorte de glossaire de la terminologie bouddhique, c'était très scientifique, n'est-ce pas ? En disant, pour éviter que chaque traducteur prenne un mot de ci, de là, et puis fasse un petit salmigondi de sa façon, on a imposé à tous les traducteurs une sorte de nomenclature. C'est le dictionnaire qui est connu sous le nom sanskrit de Mahavyutpati, et qui a été après augmenté des traductions chinoises, mongoles, etc., et qui est encore utilisé par les spécialistes d'études bouddhiques actuelles. Donc il y a vraiment une espèce de volonté de fidélité au bouddhisme indien, mais en même temps les conditions culturelles, géographiques, climatiques du Tibet étaient tellement différentes de l'Inde que presque par force il y a eu des divergences et des créations importantes, d'autant plus qu'il n'y a pas que l'Inde dans le bouddhisme. La civilisation tibétaine s'est élaborée relativement tardivement, donc au 7e siècle au mieux et plutôt 8e, vers le 7e, 8e, 9e siècle. Et aussi sous l'influence de la Chine. C'est symbolisé par la création du grand monastère de Sanmye, qui est sur la partie tibétaine du Brahmapoutre, un peu au sud ou est de Lhasa, n'est-ce pas ? C'est un monastère qui a été créé sur 3 niveaux, et chaque niveau correspondant à une architecture différente. Donc une architecture chinoise, une architecture népalaise indienne et une architecture tibétaine, disait-on, n'est-ce pas ? Ce qui symbolisait la pluralité,
le syncrétisme.
Oui, et la pluralité des influences
et
culturelles.
La pluralité, oui, parce qu'on disait tout à l'heure que ils étaient en contact depuis toujours. Et puis que les portes d'entrée, malgré tout, ont toujours été ouvertes.
On a beaucoup. C'est très difficile de voyager dans l'Himalaya, mais la plaine centrale du Tibet est une sorte de petit miracle géologique, puisque au milieu de grandes chaînes de montagnes, vous avez brusquement cette vallée très fertile, jouissant d'un climat
ensoleillé.
Oui, très agréable à vivre, enfin, parfois aussi des orages très impressionnants. Et c'est là que vraiment s'est élaborée la première royauté tibétaine, supportée, soutenue par le bouddhisme.
Que vous m'avez conseillé, évoque le roi
Songtsen Gampo, oui.
Qui a accédé au trône en 627. Et puis il a
c'est lui qui a envoyé Tommi Sambhota.
Voilà. Oui. Il a eu un très long règne puisqu'il mourut en 649. Donc c'est un homme qui a été politiquement important. Il a fait l'unification du Tibet. Il a fondé un empire puissant jusqu'en Asie centrale.
Oui, et jusqu'en Chine.
Donc le Tibet a rayonné, vraiment.
Oui, bien sûr. Le Tibet a été à un moment un grand empire. C'est peut-être d'ailleurs le début de ses ennuis, puisqu'ils sont allés jusqu'en Chine. et le célèbre site de Tunhuang, n'est-ce pas, qui est aux confins occidentaux de la Chine, a été occupé par les Tibétains. On a encore des traces d'art tibétain dans les cavernes de Tunhuang. On a des textes tibétains et on a aussi de curieux textes qui sont des transcriptions en lettres tibétaines de textes chinois de l'époque. C'est parmi les premières, transcriptions phonétique du chinois ancien. C'est très intéressant. Donc il y avait de grands contacts. Et alors vous savez, beaucoup de gens connaissent ce que l'on a appelé après le fameux concile de Lhasa, qui est, pour reprendre le terme de Paul de Miéville, qui est en France et dans le monde celui qui a consacré le premier grand livre important à cette rencontre historique, enfin historique ou non, ça on ne sait pas, ce qu'il appelait le Concile de Lhasa, sous-titré « Une controverse sur le quiétisme au Tibet du 8e siècle ». Alors, le quiétisme, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce fameux, c'est plutôt une controverse qu'un concile, puisqu'il est essentiellement un dialogue ou un débat entre deux protagonistes. Un protagoniste...
C'est un duel d'Ordali ?
Oui, dialectique quand même, dialectique. Parce que c'est vraiment une véritable controverse dont Paul de Miéville a publié le dossier chinois qu'on avait conservé justement à Tunhuang. Et c'est une controverse en quelque sorte ce qu'on appelle entre le zen d'un côté, le chan, n'est-ce pas, et les positions indiennes plus traditionnelles de l'autre, qui correspondent un peu à l'école du milieu indienne. Et puis, alors on ne sait pas exactement si ce fameux concile, c'est vraiment, il se serait tenu même à Samye, dans ce temple dont je viens de vous parler, on ne sait pas s'il s'est vraiment tenu de la façon dont on l'a décrit, dont on a décrit cette rencontre, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu cette double influence du bouddhisme chinois d'un côté et du bouddhisme indien de l'autre, a fini par faire, comme diraient les Chinois à l'époque de Mao, créer une contradiction qu'il a fallu résoudre d'une façon ou d'une autre. Et les Tibétains l'ont résolu en adoptant le bouddhisme indien, cette fois franchement, et en reléguant le bouddhisme, les influences chinoises, donc Chan, etc., au niveau quasiment d'hérésie, au rang d'hérésie. Mais chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas, en l'expulsant comme cela par la grande porte. Les influences chinoises sont revenues, oui, par la fenêtre. Et il y a eu de nombreuses influences que l'on commence à discerner à présent. Et en particulier, alors là, je marche sur des œufs parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais dans ces méthodes de méditation qu'on appelle Dzogchen, c'est pas la grande réalisation, il semble qu'il y ait des influences. On a discerné des influences shivaïtes, de peut-être même extra-bouddhiques, indiennes extra-bouddhiques. Mais de l'autre côté, l'influence du Chan, donc du Zen chinois, semble maintenant, à présent, démontrer, ou du moins les spécialistes en ont de plus en plus conscience. Donc il y a eu vraiment des influences de ce côté-là. De même, vous savez que dans la tradition tibétaine ancienne, on parle d'une liste de 84 Mahasiddhas, n'est-ce pas, les grands réalisés, les grands accomplis. Et parmi ces Mahasiddhas, il y a des noms, bien sûr, typiquement indiens, mais vous avez aussi quelques noms chinois qui résonnent. On se dit qu'il y a aussi des influences chinoises qui ont subsisté comme ça.
Oui, certainement très importantes. Quelques mots sur la religion bon.
Ah oui, alors
les bombes.
Oui. Alors,
je ne suis pas sûr de prononcer comme il faut.
Oui, alors mon tibétain n'est pas. À la Saint, on prononce plutôt peun, n'est-ce pas?
Oui.
Mais
peun,
alors
le
on
B
prononce.
Est un peu
alors, et parfois même aspiré, alors selon les niveaux de. C'est peun ou peun, n'est-ce pas? Donc la religion peun, alors c'était encore quelque chose de très intéressant, parce que ça pose le problème de la religion des Tibétains avant le bouddhisme. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était cette religion peun, qui était une sorte de religion indigène, autochtone, que l'on plaçait un peu comme nous en avions parlé il y a quelques temps, comme les rapports entre le Shinto et le bouddhisme au Japon. Le Shinto ayant existé de temps immémoriaux et le bouddhisme venant par-dessus coiffer tout cela. C'était un peu la même chose que l'on s'était représenté pour le peun au Tibet. Et puis, alors, les recherches ont considérablement évolué depuis, parce que cette invasion du Tibet par la Chine de 59 a eu des conséquences désastreuses, mais elle a eu indirectement, à toute chose, malheur et bon, le fait que beaucoup de Tibétains sont partis, comme vous l'avez dit, et beaucoup ont emporté avec eux des livres, des enseignements, et en particulier, c'est là qu'on a pu découvrir la richesse de la tradition peun, qui, n'exagérons un peu, je dirais qu'il ne cède en rien à la tradition bouddhiste tibétaine. Vous avez un immense trésor d'écritures, de commentaires, d'histoires, etc., mythologiques. Et on s'est aperçu peu à peu que, d'abord, le peun, au moins, s'est complètement remodelé sur le bouddhisme. Les peunpo, donc les tenants du peun, ont remodelé leur doctrine selon les normes bouddhiques, c'est-à-dire que là où les bouddhistes ont fait un canon bouddhique qu'on appelle Kanjur, les peuls ont fait la même chose, qu'ils appellent Ka tout court d'ailleurs, et puis ils ont fait aussi leur canon de commentaire, n'est-ce pas, l'équivalent du Tenjur bouddhique. Et ils ont fait aussi un ordre religieux, vous avez des monastères Pun, avec aussi, et ça revient à notre propos, avec aussi des modes de transmission de l'enseignement tout à fait modelés sur le bouddhisme tibétain. Et il semble d'ailleurs, alors certains chercheurs, et c'est une hypothèse assez fascinante, ne parlent même plus du tout de... Enfin, il y a peut-être un petit fond de pratique chamanique, pour autant que ça veuille dire quelque chose, mais il semble que le Pun pourrait être... un état antérieur du bouddhisme qui s'est propagé au Tibet avant la version officielle, disons du 7e, 8e siècle, et qui ne serait peut-être pas venu de l'Inde, mais d'autres régions adjacentes. Alors là, si vous le permettez, je peux ajouter, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans le Pun. Les Tibétains adorent les conceptions de royaumes plus ou moins mythiques. Tout le monde connaît le royaume de Shambhala, n'est-ce pas, qui a été transformé par les Occidentaux en Shangri-La, comme la chaîne d'hôtels dont on va bientôt voir un bâtiment à Paris. Eh bien, l'équivalent, alors ce n'est pas exactement l'équivalent du Shambhala, mais les Pun ont aussi un royaume mythique plutôt, et mystique d'ailleurs, qui s'appelle le Shangchung, n'est-ce pas. D'où seraient venues toutes les doctrines Pun et les écritures Pun ayant été traduites de cette langue Shangchung. Alors au début, on pensait que c'était un mythe, un pur mythe, et puis quand même, la langue Shangchung existe. On a des textes même en Shangchung, des dictionnaires, mais ce qui est très démoralisant, c'est qu'il y a deux états complètement irréductibles l'un à l'autre de la langue Shangchung. Un Shangchung ancien, qui est peut-être une vraie langue, et puis un Shangchung plus moderne, qui est sans doute un remaniement fait par les Tibétains sur cette langue ancienne. Mais malgré tout, il semble que ce royaume ait bien existé. Quant à savoir où il était, ça c'est encore une autre paire de manches. On l'a mis partout, vraiment, mais je crois que pour l'instant, il y a une...
Il se balade.
Oui, voilà. Parle de... Je vous dis, vraiment, moi-même, je n'arrive pas à suivre les... Enfin, moi-même,
les dernières parutions, parce que les trouvailles voilà.
Alors, c'était au nord du Tibet ou bien à l'est du Tibet, entre Nakchu, la région de Nakchu, Nakchuka, ou bien le Kham. Mais il se peut d'ailleurs qu'il se soit déplacé. Mais en tout cas, vous voyez que c'est pour dire simplement que ce Pun est donc une sorte de miroir du bouddhisme qui a évolué en même temps que le bouddhisme tibétain et de façon assez parallèle. Il y a en ce moment au Japon des recherches très importantes sur le Pun et qui sont faites en collaboration aussi avec des Français parce que nous avons la chance en France d'avoir un authentique possesseur de tradition Pun traditionnelle, c'est M. Samten Karmé, qui est chercheur au CNRS, à la retraite à présent, mais qui est l'un de ceux, avec M. Snellgrove autrefois, qui ont vraiment lancé les études Pun. Et vraiment, je crois qu'on peut parler d'une religion tibétaine, un peu comme le Shinto. Alors c'est peut-être mon caractère japonisant qui plaque là-dessus, mais de même que la religion japonaise est un syncrétisme shinto-bouddhique, la religion tibétaine est sinon un syncrétisme Pun-bouddhisme, au moins un dialogue permanent entre ces deux religions.
Est-ce que je vous choquerais si je vous dis que tout ce que vous évoquez me fait penser au christianisme qui avait récupéré, le mot n'est pas élégant, la mythologie païenne en Europe.
Oui.
Je parle de l'Europe.
Oui, au moment
où le christianisme s'est installé. Oui. C'est la stratégie de toutes ces religions qui sont sous-jacentes, puis de nouveau intégrées à la religion principale.
Simplement, dans le cas du Pun, il faudrait imaginer... Alors, comme d'ailleurs on essaye de le faire maintenant, par exemple un christianisme celtique, vous voyez, où l'on essaierait d'opposer, et je sais qu'il y a des courants dans certains pays, certaines régions celtes, où on essaierait d'opposer, de refaire un christianisme celtique anti-romain, en quelque sorte, fondé sur même des croyances en la réincarnation, etc. Mais quand même avec le fait que le Pun a reconstitué toute la hiérarchie intellectuelle du bouddhisme tibétain. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des écoles de métaphysique, n'est-ce pas, de cosmologie même, que des écoles de logique et des...
C'était très intellectuel alors.
Ah oui, bien sûr, oui. On a constitué une mythologie en système sinon philosophique, du moins un système complet, n'est-ce pas, décrivant à la fois les réalités métaphysiques et physiques.
Oui, oui, vision du monde. Oui. Et... Oui, oui.
Par exemple, il y a une grande encyclopédie bouddhique bien connue de l'Inde à l'Extrême-Orient qui s'appelle l'Abhidharma Kosha, n'est-ce pas, le trésor de la surloi en quelque sorte. C'est une, parfois on le traduit par métaphysique d'ailleurs, Abhidharma, c'est un peu. Mais le Peun a fait sa propre version de l'Abhidharma Kosha. Enfin, c'est très intéressant, oui.
Parlons des méthodes de transmission.
Justement, je crois que là, on pourrait, toujours avec le bémol que constitue mon incompétence, mais je crois qu'on pourrait définir, il y a vraiment quelques traits spécifiques au bouddhisme tibétain qui semblent s'être aussi reportés sur le Peun, et en particulier l'importance de l'éducation. Vous savez que, par exemple, avec le Zen et le Chan, on fait fi de tout ce qui est livresque, de tout ce qui est... Il y a un dicton Zen célèbre, n'est-ce pas, parce que on ne s'appuie pas sur les lettres, et il y a une transmission en dehors de la doctrine, n'est-ce pas. Donc, ce sont deux adages bien connus du Zen que l'on aurait bien du mal à retrouver tel quel dans les pratiques intellectuelles tibétaines, puisque vraiment, là, l'enseignement scolaire, même scolastique, est tout à fait honoré depuis de très longues dates au Tibet, et je vous dis par décalque aussi dans le Peun. Donc il y a vraiment un cursus d'études qui peut commencer à un âge très tendre, mais une fois que l'on entre dans les ordres, dans la voie bouddhique, c'est un cursus qui est minutieusement gradué, n'est-ce pas, qui mène à des grades qu'on a parfois traduits par doctorat, n'est-ce pas, le docteur de la loi, Geshe, n'est-ce pas, auquel on accède après 12 ans d'études selon les écoles. Si l'on prend, disons, la version la plus classique du bouddhisme tibétain, je dis classique au sens bien organisé, puisqu'elle est relativement récente, c'est l'école des Gelugpa, n'est-ce pas, qu'on appelle les bonnets jaunes. Et eux ont mis au point, disons, le prototype définitif de cet enseignement. Et c'est très curieux de voir que si vous achetiez, par exemple, une méthode, un cours de théologie d'autrefois, n'est-ce pas, disons, d'avant le Concile Vatican II, peut-être même après, vous verriez qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à
similaire.
Ce cursus de Gelugpa. Ce qui m'a toujours beaucoup frappé, je me souviens d'un livre qu'on trouvait autrefois dans les librairies à Paris sur ce genre d'introduction à la théologie et à la philosophie thomiste, qui commençait par la logique, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs dans l'enseignement philosophique même du XIXe siècle, c'était cela aussi. Or, dans le bouddhisme tibétain Gelugpa, lorsque vous commencez à étudier le bouddhisme, vous commencez par la logique pure, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'apprentissage du raisonnement. L'idée étant que le bouddhisme consistant d'abord à avoir une vision correcte de la structure du monde pour pouvoir y échapper, il faut la comprendre, et pour la comprendre, il faut l'analyser par la logique, puisque le monde étant aussi largement, sinon le produit de notre pensée, du moins, nous ne pouvons le saisir que par la pensée, il faut savoir comment nous pensons pour comprendre et le monde et la façon dont nous comprenons le monde, n'est-ce pas ? Et c'est assez surprenant de voir cette graduation qui commence par la logique, de même la morale, n'est-ce pas ? L'enseignement de la discipline monastique, le Vinaya, constitue aussi une moralité. Et puis ensuite, alors vous avez les différents stades, je vais vous parler de cette encyclopédie de l'Abhidharma, donc de la description du monde, qui mène ensuite aux pratiques de méditation. Et puis plus loin encore, alors après vous avez les pratiques tantriques, ésotériques, qui constituent quand même un terrain séparé.
Oui, c'est un petit peu différent, parce que là, c'est vraiment l'esprit,
voilà,
le tantrisme.
Oui, un esprit quand même réalisé dans la pratique, dans le rituel, qui est, vous avez beaucoup de rites qui peuvent être parfois étranges pour nous. Et c'est peut-être
enfin,
d'ailleurs...
c'est une connaissance un peu secrète.
En principe, oui. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons qui ont mené à la création du mot lamaïsme, puisque ce tantrisme était senti comme si différent, évidemment, entre le Theravada siamois et le tantrisme tibétain, quelques écoles tantriques tibétaines. Il semble qu'il n'y ait rien de commun. C'est ce qui a peut-être créé aussi cette idée d'une rupture. Alors qu'en réalité, le tantrisme est né en Inde, et ce n'est pas une création proprement tibétaine, même s'il a pris des voies. Et surtout, il s'est maintenu au Tibet alors qu'il a disparu en Inde.
Je voulais vous demander si le Dalai Lama actuel est bien de l'école de Gelugpa.
Oui, oui, bien sûr, il vient des Gelugpa. J'ai entendu dire, et alors souvent aussi, on a dit aussi de plusieurs autres grands lamas, comme le premier, le plus célèbre des Dalai Lamas, celui qu'on appelle le grand cinquième, oui, du XVIIe siècle, on disait qu'il s'était beaucoup intéressé au Peun aussi. Mais en principe, les Dalai Lamas appartiennent tous à l'école de Gelugpa, encore que très souvent, leurs précepteurs, lorsqu'ils sont jeunes, peuvent venir d'autres écoles, comme par exemple l'école des Sakyapa, qui est une école relativement proche, dont le centre est un grand monastère aussi au sud de Lhasa, un très beau monastère qui est encore actif, qui est le monastère de Sakya, justement. Ça me rappelle d'ailleurs Sakya, parce que nous parlons de la transmission de la sagesse. Il y a un petit livre que tous les moines tibétains et même les tibétains qui apprenaient à lire connaissaient, qui est encore très répandu maintenant. Il a été réédité même par les Chinois très souvent. C'est un petit livre qui s'appelle justement « La mine des propos précieux », n'est-ce pas ?
Les propos précieux, ce sont des sentences, des dictons
Subhashita Ratnanidhi en sanskrit. C'est donc la mine de joyaux des maximes bien dites, en quelque sorte. Et ça a été l'œuvre d'un moine qui s'appelle Sakya Pandita, justement, le maître des Sakya, qui est un moine du XIVe siècle qui a eu une très grande influence au Tibet. C'est un recueil qui est constitué de 500 quatrains, n'est-ce pas, petits quatrains, chacun en général composé de deux parties, avec une maxime morale et puis une illustration de la maxime, par une petite allégorie, l'aimant qui attire le fer en laissant la poussière et des choses comme ça, voyez-le. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des choses traduites du sanskrit. Alors que c'est un texte qui a été fait par un Tibétain, il porte un titre sanskrit, n'est-ce pas ? Parce que la pratique des subhashita, n'est-ce pas, les maximes bien dites, les bonnes paroles, est une pratique très courante dans la civilisation indienne. C'est l'un des moyens de transmission d'une sagesse à la fois populaire, parce que beaucoup de ces vers de Sakya Pandita sont devenus des sortes de proverbes. Et puis, en même temps, c'était aussi un livre de lecture et qui permettait, parce qu'il y avait des commentaires, n'est-ce pas, puisque c'était en général des allusions à d'autres textes, ça permettait une introduction à la fois à la littérature indienne et tibétaine. Et dans le même genre, alors ça c'est très curieux, parce qu'on a parlé du pun et du bouddhisme, mais il y a des influences qu'on est surpris de découvrir, en particulier des influences musulmanes. Je vais vous parler de ces...
Dans les méthodes de transmission.
Dans ces recueils de maximes de sagesse. Je vais vous parler de Sakya Pandita et de sa mine des joyaux des bons propos. Et vous avez un autre livre tout à fait populaire qui s'appelle le Kachepalu. Luk, ça veut dire la morale. Et Kachepa, ça veut dire le père. Pa, Kaché, cachemirien. Et c'est un recueil aussi de maximes. Ils sont beaucoup plus tardifs, semble-t-il. Alors là, je ne voudrais pas me prononcer, peut-être 17e, 18e, je ne sais pas. Mais qui sont, semble-t-il, traduites du persan. Et dedans, on y parle de Dieu. Et le mot pour Dieu, c'est kota en tibétain, enfin en lettres tibétaines. Et on reconnaît tout de suite que c'est le mot, en réalité, le mot persan, khodo, n'est-ce pas, roda, n'est-ce pas. Les persans, encore, les iraniens, pour dire adieu, disent roda hafez, n'est-ce pas, que Dieu vous garde. Donc ce mot est passé dans un petit texte, encore maintenant, je ne sais pas, mais qui a été assez populaire dans le Tibet ancien et qui est donc là aussi le témoignage d'une tradition de sagesse extra-bouddhique et extra-indienne, ce qui n'est pas si courant. Si on peut même parler d'une autre, je vous ai parlé donc de l'Inde, du Tibet, voire de la Perse, et il y a aussi une autre influence qu'il ne faudrait pas dédaigner. Je vous ai parlé de la Chine tout à l'heure, de l'influence un peu cachée de la Chine, mais elle est beaucoup plus manifeste dans les régions du nord du Tibet, en particulier dans la province de Lamdo, n'est-ce pas ? La province de Lamdo, d'où est, entre parenthèses, originaire le Dalai Lama actuel, n'est-ce pas ? Il est bien. Le Lamdo est maintenant entièrement en Chine. En particulier, ça, c'est une province qui est divisée entre la province chinoise du Gansu et la province du Qinghai, n'est-ce pas ? Du lac bleu. Cette mer, c'est l'un des plus grands lacs salés du monde, je crois. Et vous avez là de nombreux grands monastères tibétains, comme par exemple le monastère de Labrang ou le monastère de Kumbun. Quand vous visitez ces monastères, vous êtes très surpris de découvrir sur les auvents, sur les porches des temples, en général de l'intérieur, on ne le voit pas de l'extérieur, mais des peintures murales ou sur bois, qui représentent des scènes tirées du pèlerinage à l'ouest, le fameux roman chinois Shi Yuji, n'est-ce pas, qui décrit le voyage du grand moine Tang Xuanzang, qui est parti chercher les sutras en Inde, n'est-ce pas. Donc Xuanzang est mort en 669, il est resté presque 20 ans en Chine, et son voyage a fait l'objet d'un roman picaresque absolument éblouissant à lire, et pour la langue et pour le contenu. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes ne l'ont jamais lu simplement que comme un roman, n'est-ce pas ? On y a cherché toujours beaucoup de sens. On trouve des illustrations tirées de ce voyage vers l'Ouest qui a été traduit en français. D'ailleurs, on peut le lire dans la Pléiade, dans la traduction, très belle traduction d'André Lévy. Et les Tibétains et les Mongols aussi, ça a été très populaire dans les monastères mongols, se sont beaucoup inspirés du côté chinois, donc les Tibétains de Chine, de ce roman.
J'avais cru comprendre que les Mongols avaient aussi eu un petit peu des accointances avec la forme de bouddhisme tibétain.
Bien sûr, je vous parlais de Sakyapandita, n'est-ce pas ? Son neveu, qui s'appelait le moine Pakpa, n'est-ce pas ? A été l'émissaire à la cour d'un empereur mongol et a puissamment contribué à faire du lamaïsme la religion des Mongols, de ceux qui sont restés en Mongolie. Et le bouddhisme mongol, vous savez que ce sont quasiment, comme l'indique le mot même de Dalai Lama, Dalai c'est un mot mongol qui veut dire la mer, l'océan, n'est-ce pas ? Le lama à la sagesse océanique en quelque sorte. C'est un titre qui a été décerné par un empereur mongol. Et les Mongols ont fini par adopter le bouddhisme Gelugpa. Vous savez, il y a eu énormément de grands moines mongols. Quand vous voyez les œuvres complètes des moines mongols, généralement, ils ont eu le temps d'écrire dans des circonstances difficiles, parce que quand on voit la Mongolie n'est pas un pays riche, comme le Tibet d'ailleurs, et vous avez des moines qui ont écrit des vingtaines de gros volumes, 19 en tibétain, 1 en mongol, n'est-ce pas ? C'est donc le Tibet était la langue de prestige, la langue
oui,
sacrée
la
presque.
Langue de prestige, oui. Alors, nous allons changer un petit peu, parce que en parlant des écoles de transmission, vous en avez vu, vous ?
Oui, ce sont des souvenirs très émouvants. Je suis allé au Tibet deux fois, en 1986 et en 1987. Et je suis allé à la fois à Lhasa et dans l'Amdo. Il y a une scène surtout qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Vous savez qu'il y a évidemment le palais du Dalai Lama, le Potala à Lhasa. Et derrière le Potala, tout le monde voit toujours le Potala par la façade, qui est magnifique, c'est un spectacle grandiose. Je n'oublierai jamais, je suis venu au Tibet par la route, n'est-ce pas, et pas par avion, donc en venant de la Chine.
Comme les envahisseurs.
Oui, en quelque sorte. Mais là, c'était dans un minibus.
C'était
donc
pacifique.
Oui, c'était tout à fait pacifique. Et lorsqu'on arrive vraiment dans la plaine de Lhasa, enfin un peu en hauteur, n'est-ce pas, qu'on voit le Potala au loin, c'est vraiment très émouvant. Et lorsque vous visitez le Potala, vous entrez toujours par la façade qui est le paysage le plus connu, mais derrière le Potala, il y a un petit lac qu'on appelle le lac des Nagas, n'est-ce pas, des loups, c'est un mot tibétain, K-L-U, n'est-ce pas, qui veut dire ces espèces d'entités aquatiques, génies aquatiques, qu'on traduit aussi par dragon, puisque les Chinois ont traduit ça par dragon. Et c'est un lac artificiel qui a été fait lorsqu'on a, semble-t-il, enfin, c'est ce qu'on nous a expliqué à l'époque, qui a été fait lorsqu'on a construit le Potala, c'est-à-dire qu'on a pris des matériaux dans la terre pour élaborer.
Et ça a fait une espèce de sablière.
Voilà, et on l'a rempli d'eau. Il y a un petit îlot artificiel au milieu de ce lac avec un temple dédié au roi des dragons, au roi des Nagas. Et on y accède par un petit pont, n'est-ce pas ? C'est pas très, très grand. Et là, lorsque j'avais visité ça en 86, j'avais été étonné d'y voir, de tomber sur un cours de tibétains. Il y avait de tout jeunes enfants, entre 6 et 10 ans, qui étaient tous assis. Il y avait peut-être, oui, c'était une dizaine ou une douzaine, qui étaient tous assis très sagement, avec chacun à la tibétaine, avec une espèce de grande planche un peu oblongue de forme, sur laquelle ils écrivaient avec des sortes de craies. Ils écrivaient des lettres tibétaines que leur indiquait un moine, n'est-ce pas, un moine qui était là, qui leur faisait une sorte de cours de langue et d'écriture tibétaine au pied du Potala, donc à l'ombre du Dalai Lama qui n'était plus là évidemment, mais on sentait bien qu'il y avait
qu'il
une chose très symbolique là-dedans. Et ça m'a rappelé une autre chose que j'avais vue aussi dans l'Amdo. L'Amdo, évidemment, dans le Kansu, donc actuellement, la population est très mélangée. Vous avez beaucoup de Chinois, vous avez aussi des musulmans chinois qu'on appelle les Hui, et vous avez des Tibétains. Mais les Tibétains de l'Amdo parlent un autre dialecte très différent du dialecte de Lhasa. Seulement, ils ont la même langue écrite, bien sûr. Et j'étais aussi arrivé dans un petit temple comme ça, un très beau temple, et je me souviens encore, c'était en plein été, à l'ombre d'un auvent. Il y avait là 5 ou 6 tout jeunes enfants qui faisaient pareil, avec leurs planches, leurs modèles de lettres, qui commençaient à apprendre l'alphabet tibétain. Évidemment, ce n'était pas à l'école, puisque l'école, c'était le chinois obligatoire. Donc, le tibétain était encore, en quelque sorte, une sorte de matière à option, mais que l'on faisait au temple, au monastère. Et je me disais que c'était à partir de là qu'allait commencer leur parcours dans les méandres du canon bouddhique tibétain. Et c'était très émouvant. J'avais vu aussi au monastère de Labrang, alors le grand monastère de l'Amdo. Une fois, j'étais arrivé comme ça tard le soir, et j'étais descendu à un hôtel qui était encore très frustre à l'époque. J'étais tout de suite allé au monastère. J'avais trouvé dans la cour, c'était vraiment à la fin du jour, et là aussi une vingtaine ou une trentaine de jeunes moines qui étaient en train de participer à l'une des choses caractéristiques du bouddhisme tibétain. Je vous parlais de la logique. Ils faisaient la disputation logique, n'est-ce pas ? Ils étaient en train de répéter quelques questions métaphysiques.
Des controverses.
Voilà, des controverses. Et c'était aussi extraordinaire. Donc, on pouvait voir encore, à l'époque, toutes les graduations du cursus des études tibétaines bouddhiques.
Espérons qu'on puisse toujours le voir.
Je pense quand même, ça continue, même dans des circonstances difficiles, parfois très difficiles. En 2008, Labrang a été très sévèrement reprise en main par le pouvoir chinois, mais Je pense qu'on n'arrivera pas à tout supprimer comme ça simplement.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Noël Robert. Vous nous avez montré que malgré son aspect isolé, le Tibet est ouvert à tous les vents. Alors, on a bien vu que c'était parfois son malheur. Parfois un peu trop, mais c'est aussi ouvert à toutes les réflexions intellectuelles et tous ces nombreux traités dans tous les domaines culturels.
C'est très vrai. C'était vraiment un achèvement, comme on dirait en anglais, extraordinaire dans l'histoire des civilisations, je trouve.
Un achèvement. Bravo.
Réalisation,
merci.
En tout cas.
Oui, merci.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.